Shalom, shalom les koulam, boker tov mesdames, boker tov. Voilà, on se retrouve le jeudi matin pour notre étude du Tanakh, bien évidemment. Et donc aujourd'hui, nous avons dit que ça y est, on rentrait enfin dans l'endroit qui est cher à nos cœurs. Mais avant cela, est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce que tout le monde est là? Est-ce qu'on peut commencer? Faites-moi un petit signe. Un petit signe, mesdames, pour voir si on peut commencer. Adassa, tu ne fais pas partie du mesdames. Est-ce qu'on peut commencer? Est-ce qu'on peut... Voilà, j'attends encore quelques secondes pour avoir le ichour. Oui, non, 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 oui, 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 non, non. Allez, je nous donne encore 10 secondes. 10 secondes et je commence. Super. Alors, c'est bon. Alors, on est parti. Très bien, mesdames. Donc, on revient dans la névoie dans tous ses états. 11e épisode. Eh oui, on avance. Et nous sommes donc dans le livre de Shmuel Bet, le deuxième livre de Shmuel. En fait, il n'y en a qu'un, évidemment. Vous vous rappelez la séparation en deux livres, n'est pas juive, elle est chrétienne. Donc, nous sommes, mais pour nous y retrouver plus facilement, on va l'adopter. Nous sommes donc dans Shmuel Bet, chapitre 5, la névoie dans tous ses états. La semaine dernière, nous avons évoqué la mort de Shaoul et la kina de David suite à la mort de Shaoul. Maintenant, hein, hop là, qu'est-ce qui se passe? Voilà, nous avons vu la semaine dernière la kina de David sur la mort de Shaoul, la tristesse énorme et ce que ça représentait Beth Shaoul. Maintenant, ça y est, alors j'ai passé sur certaines histoires, effectivement, il va y avoir après la mort de Shaoul, le fils de Shaoul qui va essayer de régner un petit temps. Mais finalement, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'arriver directement, maintenant, au moment où ça y est. Le peuple juif en a marre de la scission, en a marre de la séparation. Depuis Yehoshua, et encore, on va voir que finalement pas tellement, mais depuis Yehoshua, il n'y a plus eu de centralité du peuple juif. Et donc, ça y est, les tribus d'Israël ont marre de cette séparation. Imaginez-vous que pendant 7 ans, il y a eu une majorité des juifs qui étaient serviteurs de Shaoul, mais la tribu de Yehuda était... eux, du côté de David. Et donc, il est temps maintenant de terminer cette scission. Nous sommes donc dans le chapitre 5, et c'est parti. Vayavou kol shivtei Israël el David chevrona, vayomeru le mor, inenu atzmecha obesarcha anachnu. Toutes les tribus d'Israël viennent voir David à Chevron. Ça fait 7 ans qu'il règne sur la tribu de Yehuda à Chevron. Tout le monde vient le voir et lui dit « Zéou, ata besarenu, tu fais partie de notre peuple, tu es un de chez nous, comme on dirait. »« Vayomer, sera, gam etmol, gam shilshom beyot shaoul melech alenu, ata ita motzi veamevi et Israël. »« Vayomer Hashem lecha, ata tir'e et ami et Israël, veata tiye le nagid al Israël. » Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Ça, c'est quelque chose de fondamental dans notre compréhension de ce que c'est que la malchoute d'après le judaïsme. Les tribus d'Israël viennent voir David et lui disent « Même à l'époque où Shaoul était le roi, nous, nous savions tous que Dieu t'avait choisi pour être le roi d'Israël. Nous savions tous que Dieu avait fait de toi celui qui allait gouverner. Et pourtant, ce n'était pas toi le roi. Lama, c'était pas toi le roi. Eh bien, parce que, d'après le judaïsme, c'est l'homme échané. Ah, je mets des guillemets parce que oui, c'est méchané, mais c'est l'homme échané, alachiquement parlant. Si Dieu, il a dit, c'est Réhouven le roi, si le peuple a décidé que c'était Shimon, eh bien, ce sera Shimon. C'est-à-dire que le fait que Shmuel Hanavi a été envoyé par Dieu pour oindre David, eh bien, ça ne change rien à l'affaire. Si le peuple ne suit pas David, eh bien, David n'est pas le roi. Je vais dire même plus que ça, et ça, on le verra à un autre moment. Je ne vais pas m'étendre dessus, mais si David est roi, et qu'à un moment donné, le peuple, il est déjà roi, il est roi, ce que tu veux, mais à un moment donné, le peuple le lâche au profit de quelqu'un d'autre, ce qui va arriver avec son fils, avec Avshalom, eh bien, il n'est plus le roi, même s'il a été loin, qu'il règne, et ce que tu veux. Parce que le judaïsme croit énormément à la démocratie. Acharei rabim le'atot. La démocratie, version juive, est, si tu veux, une démocratie monarchique liée au peuple. C'est-à-dire que c'est une monarchie, mais c'est le peuple qui décide qui est le roi. Alors évidemment que si ça va en plus en adéquation avec ce que Dieu il a demandé, c'est un Dieu tov, bien sûr. Mais les tribus d'Israël disent à David, écoute, au départ, on savait tous que Shmuel t'avait oint au nom de Dieu, mais pourtant, on était du côté de Shaoul. Vazmar, Shav. Ben Sheloshim Shana David Bemolcho Arbaim Shana Malach. Ah, j'ai sauté plein de trucs. Excusez-moi, autant pour moi. J'ai sauté. Verset numéro 3. Va kol zikne Israël el melech Hevrona, vayichot lahem melech David brit bechevron, lifne Hashem, vayimshechu et David le melech al Israël. Ça y est, donc comme on a dit, maintenant les tribus acceptent David. David devient donc le roi d'Israël. Et on va nous le présenter comme étant ben shloshim shana malach bemolcho ve'arbanim shana malach. C'est la première fois qu'on va nous dire au début du règne combien il va régner. C'est-à-dire, le règne de David vient à peine de commencer. Mais on nous dit il va régner pendant 40 ans. Bon, ce n'est pas grave. On sait très bien que le livre de Shmuel n'a pas été écrit par David. Donc il n'y a aucun problème. Le livre de Shmuel est écrit par Nevoa et il est écrit, et pas seulement par Shmuel d'ailleurs, et par Nathan le Navi également. Donc, on peut nous mettre ici un événement qui, en fait, récapitule quelque chose qui va se passer. Mais qu'est-ce que ça nous apprend à nous? Eh bien, ça nous apprend que la royauté de David étant la royauté idéale, eh bien, la royauté idéale, c'est Arbaïm Shana. La royauté idéale, c'est Arbaïm Shana. Arbaïm Shana ben Arbaïm Labina, c'est le moment où tu as un véritable discernement sur le peuple que tu gouvernes. Donc l'idéal va être atteint par David, va être atteint par son fils Shlomo, Vezéou. Il y aura des rois qui régneront plus, des rois qui régneront moins, mais Arbaïm Shana, c'est David, Veshlomo. Et il semblerait que ce soit ça l'idéal de la malroute. Alors une fois qu'on sait cela, alors allons-y. Quel va être le premier acte de David en tant que roi de tout Israël? Iné. בן 30 שנה דוד במלכו 40 שנה מלך בחברון מלך על יהודה 7 שנים ו66 חודשים ובירושלים מלך 33 שנה על כל ישראל ויהודה. Quel est le premier acte de David? וילך המלך ואנשיו, אנשיו c'est-à-dire עם ישראל, ירושלים אל היבוסי יושב הארץ ויומר לדוד, יושב הארץ ו ויאמר לדוד לאמור, לא תבוא הנה, כי מסירך עיוורים ופסרים לאמור, לא יבוא דוד הנה. De quoi est-on en train de parler, רבותיי? Il faut qu'on se remette dans le contexte. Ça fait maintenant, depuis Yehoshua, 350 ans, près de 350 ans, un peu plus même, que les bénis Israël sont rentrés en Israël, que la conquête du pays a été réalisée par Yehoshua. Kol HaKavod, ouais. Mais ça fait aussi 350 ans que Jérusalem est toujours entre les mains cananéennes. Yehoshua n'a pas réussi à prendre la ville. Résultat des courses, c'est le dernier bastion cananéen qui empêche la terre d'Israël d'être complètement sous domination juive. Le premier acte de David en tant que roi d'Israël va être d'aller conquérir Jérusalem. Et la question qu'on doit se poser, c'est Lama. Mais attention, dans mon lama, dans ma question, dans mon questionnement, il y a plusieurs dimensions. Lama, c'est le premier acte. Lama, il choisit d'y établir sa capitale. Lama, il ne reste pas à Hebron. David a déjà une capitale. Il a déjà certainement une belle maison. Il a déjà un centre névralgique. Pourquoi ne reste-t-il pas à Hebron? En plus, Hebron, c'est pas n'importe quoi. C'est la ville des patriarches, Avraham, Yitzhak, Yaakov. On n'est pas à Chatlerlera, bataille. C'est l'Ostam. David doit absolument réunir les cinq mêmes. C'est quoi les cinq mêmes? Pour établir une capitale, il faut cinq choses. Maïm, Mazon, Migoun, Makom, et le cinquième. Cinquième, j'y reviendrai après. C'est-à-dire que si tu veux établir une capitale internationale, une capitale d'un royaume, et pas simplement une ville centrale de tribu, parce que si tu veux, Hebron, c'est la plus grande ville du territoire de Yehuda, donc si tu veux, il n'y a pas le choix. Mais maintenant qu'on va conquérir et qu'on va rassembler toutes les tribus, eh bien, il nous faut un endroit qui va devenir la capitale du royaume. Et avant de penser symbole, il nous faut des choses pragmatiques. Nous avons besoin d'une ville avec de l'eau. Évidemment, Barour. Est-ce qu'il y a de l'eau à Jérusalem? Tous ceux qui ont été se balader à Ir David, car la Jérusalem dont on parle, évidemment, c'est Ir David, eh bien, vous avez vu qu'il y a la source du Gihon, qui est la plus grande source de la région, de toute la région. C'est une source énorme qui ne se tarit ni en été, évidemment pas en hiver. Donc, de l'eau, yesh, c'est bon, vie. Mazon, est-ce qu'il y a à manger à Jérusalem? Alors, je ne parle pas dans la ville elle-même. Ce n'est pas comme ça que ça marche à l'époque. On ne parle pas de supermarché. Mais est-ce qu'aux alentours de la ville, on peut faire pousser de la nourriture? Tu ne peux pas, en tant que capitale, compter sur l'importation complète. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Rabotai, qu'est-ce qu'il y a à l'est de Jérusalem? Har Azeitim. Donc, on peut y faire pousser, évidemment, sur le mont des Oliviers, des oliviers, pas que, également des kfanim, également... des vignes, et il y a au sud et à l'ouest de Jérusalem de quoi faire pousser des céréales. Donc on est bon sur le deuxième même, à savoir Mazon. Mikoum, le lieu. Tu peux pas mettre une capitale qui n'a pas de voie d'accès. C'est pas possible. Tu veux être central quand tu es une capitale. Quelles sont les deux voies d'accès, les deux autoroutes de l'époque? Eh bien, les deux autoroutes de l'époque, l'une s'appelle Derech HaMelech et l'autre s'appelle Derech HaYam. Alors, je parle uniquement en Israël, il y a ce genre de choses partout ailleurs, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est Israël. Qu'est-ce que c'est Derech HaMelech? C'est la vallée du Jourdain. C'est Derech HaMelech. Qu'est-ce que c'est Derech HaYam? Pachout, c'est le long de la côte méditerranéenne. Vous voyez que Jérusalem n'est ni sur celui-là, ni sur celui-là. Pourquoi est-ce qu'on a besoin, en tant qu'autoroute, d'être soit le long du Jourdain, soit le long de la mer? Parce qu'on se doit d'être toujours le long de l'eau. Que ce soit de l'eau potable, le Jourdain, ou que ce soit de l'eau qui nous permette de naviguer rapidement d'un endroit à un autre. Donc, Derech HaMelech ou Derech HaYam. Mais il y a en Israël et dans toute la région un autre chemin. Cet autre chemin s'appelle Derech Gav Ahar, sur le dos de la montagne. En fait, c'est un chemin qui ne va pas monter sur la montagne, mais qui va justement savoir utiliser les vallées et les sources qu'il y a partout dans les montagnes. Et en fait, c'est un chemin qui va traverser la Judée-Samarie par une combinaison de vallées et de sources d'eau. Et là-dessus, Jérusalem est en plein milieu. Donc c'est bon, Jérusalem est en plein milieu d'un des chemins qui peut la rendre totalement accessible. Ensuite, on a dit Migoun. Migoun, protection. Il faut des murailles. Bah oui. Il faut qu'il y ait une protection pour la ville. T'imagines, c'est ta capitale, tu ne vas pas la laisser ouverte aux quatre vents. Est-ce que Jérusalem est protégée? Rabotaï, je viens de vous dire, ça fait 400 ans, 350 ans qu'on n'a pas réussi à la prendre. Donc ça veut dire qu'elle est wahad protégée. Elle a une muraille énorme. C'est une muraille qui date de l'époque des Cananéens. C'est une muraille qui a près de 4000 ans et on l'a retrouvée. Aujourd'hui, on peut se balader à Ir David et voir la Roma, je vous cite. Absolument incroyable. Donc on a les quatre mêmes. Mais on a besoin du cinquième. Le cinquième même, c'est Merkaz. Centralité. Alors, pas tellement au niveau géographique, même si c'est important, mais on a besoin d'une autre centralité. C'est particulièrement la centralité pour l'unité de la nation. Comprenez bien que jusqu'à maintenant, ça fait 350 ans, que Am Israël vit de manière tribale. Et quand on relit le livre de Shoftim, on se rend compte qu'en fait, les épisodes ne touchent pas, pratiquement jamais, tout le peuple juif. C'est une tribu, deux tribus qui sont ensemble. C'est-à-dire qu'Am Israël a l'habitude de ne pas être Am Israël, a l'habitude d'être une tribu. La terre d'Israël a été partagée en tribus. Donc chaque ville en Israël s'apparente directement à une tribu. Hebron, c'est la capitale de Yehuda. Si David laisse sa capitale à Hebron, eh bien pour tout le monde, ça sera considéré comme étant Yehuda qui a un ascendant sur le reste. Vous allez me dire, Jérusalem a été donnée à Binyamin. Oui, mais ça, ce n'est pas très important, puisque pour l'instant, Jérusalem n'est à personne. Comme personne n'a réussi à conquérir Jérusalem, eh bien, le fait que tout Israël va participer à la conquête de Jérusalem fait que, justement, Jérusalem n'appartient pas vraiment à Binyamin, mais elle est Shayeret, elle touche à tout le monde. Et donc, tout le monde va se sentir concerné par Jérusalem. Ça, on va même le voir beaucoup plus tard, et dans le livre de Shmuel, à la fin du livre de Shmuel. Lorsqu'on va arriver à la fin, toute fin du livre de Shmuel, on va voir que David va acheter Goren Haravna Yevusi. C'est-à-dire qu'il va acheter le Harabait. David va acheter le mont du Temple. Une des dernières actions de sa vie. Il va acheter le mont du Temple. La question, c'est combien il va acheter? Bonne question. Combien ça coûte le mont du Temple? Bonne question. Eh bien, la Torah nous dit que David va l'acheter 50 shekel. Bon, shekel kesef, évidemment, pas les mêmes shekelim qu'aujourd'hui. 50 shekel. Ok. Le seul problème, c'est que quand on va aller regarder beaucoup plus loin, à la fin du Tanakh, dans le livre de Divrei Hayamim, dans les chroniques, le dernier livre du Tanakh, qui va revenir sur cette histoire-là, eh bien, tout de suite, on va nous expliquer qu'effectivement, David a acheté l'Arabite, mais il l'a acheté pour combien ? Là, c'est bizarre. Il l'a acheté pour 600 shekels. Bizarre ? Il y a eu une inflation entre Shmuel et Divrei Hayamim ? Et là, nous expliquent nos sages, mais non. Le terrain, il a coûté 600 shekels. David, il a payé 50 shekels au nom de la tribu de Yehuda. Et donc, vous avez vite fait votre calcul mathématique. Chaque tribu a donné 50 shekels, ce qui nous a amené à 600 shekels. En d'autres termes, qui a acheté Arbaït ? Tout Am Israël. Qui a conquis Jérusalem ? Tout Am Israël. Donc, le cinquième même, c'est la notion de merkaz, de centralité de ce que représente Jérusalem pour toutes les tribus d'Israël. Sans ça, ce n'était pas envisageable. Seulement, David, il a un sixième même. C'est quoi le sixième même? Et je pense que tous l'avaient ressenti à ce moment-là. C'est un Mikdash. Personne n'est dupe. Tout le monde a été en cours de tradition juive. Ils savent très bien que c'est là qu'il y a eu Akedat Yitzhak, que c'est là qu'il y a eu le Chalom de Yaakov, que c'est l'endroit que Dieu a choisi. Donc tout le monde est conscient de ce que c'est Jérusalem. Comme disait David Ben-Gurion, il peut y avoir une Jérusalem sans État d'Israël, mais il ne peut pas y avoir d'État d'Israël sans Jérusalem. Alors on y va. Seulement, comme on a dit, Jérusalem est une ville qui est extrêmement bien protégée. Les murailles de la ville qu'on voit encore aujourd'hui, je vous ai dit, eh bien, sont là et elles protègent la ville depuis 300 ans, 350 ans. Donc, eh bien, les hommes de Jérusalem, les Jébuséens, disent la chose suivante. Et donc, je reprends le verset numéro 6. « Vayelech ha-melech va-anashav Yerushalayim va-el ha-yevusi » vers le Jébuséen, « Yoshev ha-aretz » Yomer le David, qui a dit? Le Jébuséen. Ayevusim, les gens de la ville. Yomer le David, les morts. Lota voena, t'arriveras pas à venir. Ki im asirra a ivrim va pisrim, les morts. Lo yavo David hena. Genre, on va mettre comme gardien de la ville des aveugles et des kudjat. Voilà. Voilà ce qui va protéger la ville. De toute façon, on n'a rien à craindre de toi. Nos murailles, elles nous protègent. Est-ce qu'ils mentent? Eh bien, la réponse est que non. Ils ne mentent pas. Ils ne mentent pas du tout. Comment David va réussir à prendre la ville? Abotaï, comment on fait à l'époque pour prendre une ville? D'ailleurs, je veux que vous compreniez. La ville, comment elle est construite? Je suis désolé, aujourd'hui, on parle un petit peu de géographie, de topographie, pour essayer de comprendre de quoi on parle, parce que sinon, on n'y arrivera pas, hein, les copains. Donc, Jérusalem, c'est quoi? Alors, il faut bien que vous compreniez ça, et c'est pour ça que je vais vous montrer. Oui, c'est pas ce qu'on a l'habitude de faire, mais c'est Jérusalem, on est tellement... c'est notre ville, quoi. On peut pas, on est obligé. Quand on parle de Jérusalem, les sentiments, ils remontent. Donc, quand on parle de Jérusalem... Eh bien, il faut comprendre à quoi ça ressemble à l'époque. OK ? Comprenons deux secondes à quoi ressemble Jérusalem. Hop là, je vais vous trouver ça tout de suite. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, voilà, j'aurais dû venir prêt, autant pour moi. Voilà. Voilà. Je vous montre donc ici. Je vous le montre ici, très bien, deux secondes. Voilà. Voilà. Vous voyez donc Ir David. Donc, vous voyez très, très bien la chose. Vous voyez comment ça marche. Ir David, elle est là. Qu'est-ce qu'il y a donc sur l'écran, sur la droite de l'écran? Sur la droite de l'écran, vous avez le Mont des Oliviers. Vous avez sur la gauche de l'écran la source qui est protégée par une tour de garde, la source d'eau du Gihon. Mais si on regarde plus précisément autour de la ville, eh bien, la ville est entourée en fait de vallées. C'est-à-dire que sur la droite, on peut voir que juste avant de monter sur le mont des Oliviers, il y a également ici une vallée. Voilà. Sur la gauche, qu'est-ce qui se passe ? Sur la gauche, hop là, voilà. Sur la gauche, il y a également évidemment une vallée. Et au sud, comme au nord, c'est-à-dire proche de nous et dans le fond, eh bien, on voit également un petit renfoncement. Dans le nord, moins. Mais en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout autour de Jérusalem, il y a des montagnes, une vallée et une colline. Jérusalem, c'est une colline. Et quand on voit cette image, eh bien, on se rend compte de ce qui a marqué dans Tehilim, que Yerushalayim harim saviv la, que Jérusalem est entourée de montagnes. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, si je suis un soldat et que j'arrive devant la muraille, eh bien, en fait, pour arriver devant la muraille, je dois arriver d'abord en bas de la vallée. Donc, si tu veux, la muraille, pour moi, avant de commencer à être au pied de la muraille, j'ai toute la colline qui s'étend devant moi. Donc, c'est extrêmement compliqué de prendre cette muraille. Et David le sait. Comment faire pour conquérir une ville aussi bien fortifiée? Eh bien, pour conquérir une ville bien fortifiée, il faut faire un siège. Ah oui, c'est comme ça qu'on fait à l'époque. On fait un siège, on va entourer la ville, plus personne ne sort, personne ne rentre. Et donc comme ça, eh ben, à un moment donné, les réserves de la ville vont disparaître et on pourra rentrer dans la ville. Le problème, c'est que pour faire un siège, il nous faut et du temps et de l'argent. Il faut maintenir un siège. Il faut avoir le temps de le faire. David n'a pas le temps. Il doit maintenant faire un coup d'éclat. Il n'a pas l'argent. Ce n'est pas un royaume qui est financièrement bien posé. Et donc, si tu veux, il n'a pas le temps ni l'argent pour faire un siège. Donc, que faire? Eh bien, il doit trouver une solution pour conquérir la ville. Quelle va être la solution de David pour conquérir la ville? S'il ne trouve pas de solution, il n'y aura pas de conquête. Alors, eh bien, David, n'oubliez pas que avant d'être roi d'Israël, David, si je ne m'abuse, était berger. Et les bergers, ils ont un sixième sens, septième sens, huitième sens, ce que tu veux, ils arrivent à repérer de l'eau. Ils arrivent à repérer l'eau. Ah bon ? Ok. David voit bien qu'il y a de l'eau dans la ville. Il voit bien la source, mais la source est protégée par une tour de garde. Seulement, il voit également qu'il y a de l'eau qui sort de la ville, qui abreuve les champs. Et donc, il se dit, si l'eau, elle peut sortir, moi, je peux rentrer par là. Et effectivement, reprenons les versets. Verset numéro Zayin. Va'il kod David et metsudat Tzion. Hi ir David. Moi, je m'attendais à tout un chapitre qui me raconte la prise de Jérusalem, c'est tellement important. Cinq mots. Va'il kod David et metsudat Tzion. Et David a pris la forteresse de Sion. Terminé. Blitzkrieg, comme disent nos amis allemands. La guerre est claire. Et comment il a fait? Vayomer David bayom ahou kol makei yevusi vayiga batsinor veet apisrim veet haivrim senoe nefesh David al ken yomru iver vepisach lo yavo al habayit vayeshev David bamtsuda vayikra la'ir David vayiven David saviv min hamelo vebayta vayelech David alor vegadol vehashem Elohe tzevaot imo. Qu'est-ce qui s'est passé? David a donné un ordre. Il a dit, celui qui arrive à la Gat Batsinor, j'en fais le chef de l'armée. Ok. Mazé. Celui qui arrive à conquérir, à prendre le tuyau, devient le chef de l'armée d'Israël. Mais c'est qui? Alors, l'homme qui va relever le défi s'appelle Yoav ben Tsruya, qui va devenir le général en chef de David. Mais deux petites secondes, je vais éternuer. Voilà. Mais c'est quoi ce tsinor? Mazé vaïvga batsinor? Qu'est-ce que ça peut être ce tsinor? Hein, Ouria, c'est quoi le tsinor? Le dîme. Ah, aujourd'hui, on sait ce que c'est un tsinor, un tuyau, en hébreu moderne. On connaît le tuyau, le mot tuyau. Mais à l'époque, ça n'existe pas des tuyaux. Eh bien, ce verset est resté dans, on va dire, le flou complet pendant près de 3000 ans. Ah, je te le dis. Les Chachamim, ils ont essayé d'expliquer ce que c'était, mais pas clair. Eh bien, ce verset a été enfin dévoilé grâce, ben, je ne vais pas dire le hasard, parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui a fait cela, mais grâce à l'inadvertance d'un archéologue anglais. Cet archéologue s'appelle Charles Warren. Charles Warren, est un archéologue protestant britannique qui, au XIXe siècle, est fan de la Terre Sainte et il vient fouiller à plein d'endroits ici en Israël. Il va fouiller également à Ir David. Il veut y trouver plein de choses, il est fan du Tanakh, pas de problème. Et à un moment donné, il creuse, et il continue à creuser. Et à un moment donné, il termine de creuser, ben non, il tombe, pouf! C'est-à-dire qu'il creuse, et au moment où il ne s'y attendait pas, hop là, tac, au moment où il ne s'y attend pas, il tombe là-dedans. Il tombe dans le trou. Vous le voyez ici, le trou, pouf, bam, tombé dans le trou. Bon, je te rassure, le trou, il fait à peu près 5 mètres de haut. Mais à l'époque de Charles Warren, il était rempli de plein de poussière et plein de trucs, donc il tombe pas trop haut. Mais il se rend compte qu'il y a un gros trou et il va donc fouiller avec ses hommes et ils vont révéler ce trou énorme. Et ce trou énorme que je te remontre, ce trou énorme, c'est quoi? Eh bien, les amis, c'est une faille naturelle creusée par l'eau qui va donner sur l'extérieur de la ville. C'est un tsinor, c'est un tuyau. Et en fait, Yoav va me rentrer à l'intérieur du tsinor. Et une fois qu'il est à l'intérieur du tsinor, où est-ce qu'il arrive ? Il arrive dans une grotte, dans une caverne qui est creusée sous la ville et qui permet de rentrer à l'intérieur de la ville. Ce trou-là avait été creusé bien avant David, je vous le montre ici. Il a été creusé bien avant David, il a été creusé par les Cananéens. C'était leur façon à eux de pouvoir aller chercher l'eau de la source sans être obligé de sortir à chaque fois des murailles. Mais imaginez-vous l'ambiance. L'armée de David est tout autour de la ville. Les Jébuséens n'ont pas trop peur parce qu'ils savent bien que les murailles vont résister, mais ils attendent les soldats de l'extérieur. Yoav part par l'intérieur, il est remonté à l'intérieur de la ville. Entre parenthèses, vous connaissez le cheval de Troie ? Ben Zemedine-nous. Yoav est rentré à l'intérieur de la ville alors que personne ne fait attention à lui, et en catimini, il se dirige vers les portes d'entrée de la ville. Et à ce moment-là, alors que personne ne comprend, bon, j'imagine que Yoav a dû tuer 2-3 gardes à l'entrée de la ville, mais une fois qu'il arrive, eh ben, mamache devant l'entrée de la ville, ben, qu'est-ce qui se passe? Il tue les gardes qui sont à l'entrée de la ville. Je vous remontre l'image pour que ce soit bien dans la tête de chacun, voilà. Yoav va tuer les gardes à l'entrée de la ville devant la porte, d'entrée de la ville, là, et il ouvre les portes, il laisse fondre l'armée de David à l'intérieur des murailles et Vaïkar David, Vaïlkot David et Metsudat Zion. C'est ainsi. Quoi? Il n'a pas été question de l'achat du Goren de Ravna et vous si ben, j'en ai parlé tout à l'heure. Tu n'étais pas arrivé à temps, mon ami. Bekitsour. Et c'est ainsi que David a conquis Jérusalem, Bechik. Mais cette victoire, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça fait. Pas seulement pour David. Pour David, ça met en place sa royauté. Tout le monde est conscient. De toute façon, David, il avait une réputation de grand guerrier. Ça, il n'y a pas de problème. David, c'est pas le mec qui est à la yeshiva. Hein. David Ameler, mon ami, sa réputation, c'est d'abord d'avoir tué Goliath et ensuite d'avoir éclaté tous les mecs qui regardaient mal Israël. Donc ça, il n'y a pas de problème. Il a assis son autorité. Il a réuni le peuple juif autour d'un idéal. On a ensemble pris Jérusalem. Il a fait, mais ça donne aussi un message énorme à l'international. David est dans la place. Et donc, qu'est-ce qui se passe juste après cela ? Bah, pas shoot. Vaishlach Hiram Meler Tzor Malachim El David Vaatze Arazim Vechanse Etz Vechanse Even Kir Vaivnu Bait Le David. Tout de suite, eh bien, on a une influence internationale. Et à ce moment-là, eh bien, Hiram Meler Tzor, le roi du pays du Nord, ce qui est aujourd'hui le Liban, eh bien, va tout de suite faire envoyer à David des matériaux de construction pour l'aider à construire son nouveau palais. Son nouveau palais, dont l'archéologue Elat Mazar a dit qu'on a retrouvé les fondations qu'on peut trouver et qu'on peut voir sur le toit, le haut de la colline de Ir David. Qu'est-ce qui lui permet de dire cela? Eh bien, ce qui lui permet de dire, oui, des forces des lions, des ours, oui, bah ça c'est sûr, hein. Je vais pas te, tu as raison, je vais pas revenir sur tous les maasé gvoura de David, hein. Il y en a, Baruch Hashem, en veux-tu, en voilà. Donc, ce que je disais, c'est qu'il a fait construire donc sa maison en haut de la cité de David. Hein. Attends, je dis, voilà. J'essaie de vous montrer les images en même temps parce que c'est tellement Jérusalem que bah, on est obligé, ça nous fait du bien de voir cela. Donc le Harmon de David qu'on peut voir aujourd'hui grâce quand on va se balader à Ir David tout simplement. Et voilà ce qu'on y trouve. Voilà ce qu'on y trouve tout simplement. Je vous montre l'image. Tac. Voilà. Ce qu'on peut voir ici, ce que vous pouvez voir ici, cet escalier énorme de pierre. Je ne sais pas si vous arrivez bien à le voir. cet escalier de pierre est en fait un mur de soutien qui soutient le palais de David. Comment est-on sûr qu'il s'agit du palais de David ? Il s'agit d'une grosse construction à n'en pas douter. Ça, c'est une évidence. Mais le problème, c'est que ça ne suffit pas. Ça ne s'arrête pas là. C'est pas seulement une construction impressionnante en termes de dimension. Il y a autre chose. Et c'est quoi cette autre chose qu'on va trouver là-bas ? Eh bien, on a retrouvé des colonnes, des têtes de colonnes. Des têtes de colonnes, oui, mais attention, pas n'importe lesquelles. Des têtes de colonnes avec une forme sculptée sympathique. Et cette forme sculptée sympathique, eh bien, vous la connaissez tout à fait, puisque c'est la pièce, évidemment, de combien de shekels ? Vous la connaissez ? C'est la pièce de 5 shekels, Rabotai. Vous la connaissez très bien, la pièce de 5 shekels, elle est là. Et sur cette pièce, eh bien, vous pouvez voir, voilà, sur la face, cette colonne de tête corinthienne, qui n'est pas corinthienne parce que c'est bien avant les Grecs et les Romains, eh bien, on a retrouvé ces têtes de colonne énormes à Ir David, à l'endroit de cette construction imposante, et également à Ramat Rachel, là où, d'après Divrei Hayamim, David a fait construire eh bien, des greniers, des entrepôts de grains. Donc, si vous voulez, les trouvailles archéologiques à Ir David coïncident complètement avec ce qui est marqué dans le Tanakh. Donc, ça y est, David est en place, tout va bien. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Vaikar David od pilageshim venashim Yerushalayim achare bo mihevron veivaldu od le David banim ubanot ואלה שמות הילודים בו בירושלים, שמוע ושובה ונתן ושלמה. ויבחר ו... Tu vois qu'encore une fois, on te parle de l'avenir. Shlomo, il n'est pas encore né, mais בסדר, לא משנה. ופלישתים באו וינטשו בעמק רפאים. וישאל דוד בהשם לאמור, תעלה אל הפלישתים? כן? עתיתנם בידי? ויאמר השם אל דוד, עלה, כי נתון אתן את הפלישתים בידך. ויבוא דוד, סליחה, בבעל פרצים, ויקם שם דוד, ויאמר, פרץ השם את אויבי לפניי, פרץ השם את אויבי לפניי, כפרץ המים, על כן קרא שם המקום ההוא, בעל פרצים. ויעזבו שם את עצביהם, ויסיים דוד ואנשיו. רבותיי, כס כמותך? לא, לא, ג'די, ג'די תוצוית. Quand j'ai dit corinthienne, j'ai dit non, c'est Stam parce que c'est le terme qu'on connaît, mais c'est pas du tout corinthien parce que c'est bien avant l'époque grecque. On parle du 10e siècle avant l'ère chrétienne. Donc j'ai utilisé le terme corinthienne pour que vous sachiez de quoi on parle. C'est une tête de colonne, mais évidemment que c'est pas corinthien parce que ce n'est pas l'époque de David, évidemment. Bekitsour, Rabotai, de quoi on est en train de parler ? J'habite, moi perso, au bout de la rue Emek Refaim. Rabotai, je ne sais pas si vous vous rendez compte, vous allez faire votre marché à Emek Refaim, vous allez au restaurant à Emek Refaim, vous allez je ne sais pas où à Emek Refaim, dites-vous que c'est là que David il a explosé les Plishtim à Emek Refaim. Évidemment que nous, on a du mal à se rendre compte que c'est Emek, parce qu'on est en voiture. Mais quand tu es à Emek Refaim, ben, si tu enlèves les bâtiments à gauche, quand tu viens, si tu veux, de Ganapa Amon, et que tu vas vers Talpiot, eh ben, sur ta gauche, tu as Baka, c'est une colline, et si tu vas sur ta droite, tu vas avoir Katamon, c'est aussi une colline. Bekitsour, Emek Refaim, t'es dans la colline, t'es dans la vallée, complètement dans la vallée. Et là, David va terminer de mettre en place son autorité. Zéou. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Ben, maintenant qu'on a fait ça, maintenant qu'on a éclaté tout le monde, on peut arriver au chapitre 7, à savoir, eh bien, ce que David avait tellement voulu faire depuis longtemps. Va Yosef, chapitre Zayn, on a sauté les trois derniers versets qui montrent que David il a explosé ses ennemis, tout va bien. Va Yosef od David et kol bachur beYisrael 30 alef. Va yakom va yalech David vechol ha'am asher ito mibaale Yehuda. Et qu'est-ce qu'ils vont aller faire ? Il a rassemblé 30 000 hommes de tout Israël. Ah, c'est pas mal. 30 000 hommes de tout Israël. Il y a Féméod. Et qu'est-ce qu'ils vont aller faire, ces 30 000 hommes de tout Israël ? Hein ? C'est quoi l'objectif ? Eh bien, ils ont une seule chose à faire. Vayakom David vayaler vecholam asherito mi baale Yehuda la alot misham את ארון האלוהים, אשר נקרא שם, אשר נקרא שם, נקרא שם השם צבאות יושב הקירובים עליו. Il est temps de ramener Aaron à Brit à la maison. Rappelez-vous, au début du livre de Shmuel, il y avait eu la guerre contre les Plishtim, et les Plishtim avaient pris Aaron à Brit. Et ensuite, il leur est arrivé plein de pépins, ils ont décidé de la renvoyer chez les Bnei Israël. Et ça faisait longtemps qu'elle était restée en dépôt, si tu veux, à un endroit. Rappelons-nous, Iné. וירכבו את ארון האלוהים אל העגלה החדשה ויסעו מבית אבינדב אשר בגבעה ועוזה. Donc ארון était là-bas, עוזה. ואחיו בני אבינדב נוהגים את העגלה החדשה. Donc on a fait une nouvelle structure pour transporter ארון הברית. ויסעו מבית אבינדב אשר בגבעה. C'est où גבעה? C'est où גבעה? C'est l'histoire de Pilegesh בגבעה. C'est-à-dire c'est Pisgat Zev, ou alors plus exactement Tel El Ful. Quand tu vas juste après Pisgat Zev, je parle de Pisgat Zev Mizrach, eh bien tu tombes sur un bâtiment en ruine. Il y a un grand bâtiment en ruine là-bas, juste derrière Pisgat Zev. Je ne sais pas si vous avez déjà été voir cela. Tel El Ful, ça s'appelle. Et là-bas, eh bien c'est quoi ce bâtiment en ruine qu'on peut voir là-bas? Hop là, tac. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, évidemment, quand ça ne veut pas marcher, ça ne veut pas marcher. Voilà. Donc, quand tu arrives là-bas, tu vois ça. Voilà ce que tu vois à Tel El Ful. Un espèce de gros bâtiment où les colonnes ont été placées, les murs ont été mis en place, mais rien n'a été terminé. C'est quoi cette histoire? Eh bien, c'était un palais que voulait se faire construire le roi de Jordanie. Entre la guerre d'indépendance et la guerre des six jours, il n'a pas été terminé, guerre des six jours, tatatoum. Mais qu'est-ce que c'est? Ça nous permet d'avoir un endroit géographique pour situer. Tel El Ful, c'était Giv'a, c'est-à-dire c'était la capitale de Shaoul. Ben ouais, normal. Et donc à ce moment-là, Iggy Azman de faire venir l'Aaron à Jérusalem. Alors, Vaïsaoum, Ibet Avidada, Vachar Begivaim, Ima Aaron à Elohim, Vachio Lech Lifne Aaron. ודוד וכל בית ישראל משחקים לפני השם בכל עצי ברושים ובכינורות ובנבלים ובתופים ובמנענעים ובצלצלים ויבוא עד גורן נכון וישלח עוזה אל ארון האלוהים ויוחז בו כי שמטו הבקר. Ambiance festive de folie, le roi, tout le monde danse devant le Aaron, et on nous dit, on donne des théorimes, c'est sympa. Ils ont tous des fleurs comme ça dans les mains, et ils jouent de la musique, et tout le monde est content. Et à un moment donné, quand ils arrivent à destination, à un endroit où ils voulaient faire un stop, eh bien, on ne va pas faire attention. Vers Aaron à Elohim, elle va tomber. Mais elle va tomber, elle va un petit peu être déstabilisée. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on nous dit « Vayavo ad goren nachon vayishlach uza el aron ha-elohim vayochez bo ki shamtu ha-bakar » Les bœufs se sont emballés, machin, et il tient le aron. C'est très bien ce qu'il a fait, il l'a empêché de tomber. « Vayichar ha-fashem be-uza vayakehu sham vayakehu sham ha-elohim al ashal vayamot sham im aron ha-elohim » ויחר לדוד על אשר פרץ השם פרץ בעוזה, ויקחה למקום ההוא פרץ עוזה עד היום הזה. Voyez comment est-ce qu'un moment de joie peut se transformer en drame? David apprend ici un chidouche énorme, une leçon incroyable. Que avodat Hashem, tu te dois, mais tu te dois d'avoir en permanence ces deux dimensions que sont Ahava et Yira. La danse devant Aaron Abrit et devant la Simcha qui ont fait venir Aaron Abrit à Jérusalem, l'ambiance qu'on a lue tout à l'heure, c'est Ahava, Ahava le Logvoul. Ahava, Ahava, Ahava. Ken, Ahava c'est Tov. Aval, tu ne peux pas être que malé Ahava. C'est-à-dire en d'autres termes, Midat Achesed. Il te faut également Midat Adin, Koved Rosh, c'est Aaron Abrit, le fait qu'on a fait une erreur et que ça a failli tomber, c'est qu'il n'y avait pas assez de yira là-bas. Évidemment, tu ne peux pas non plus être qu'en yira. Il faut avoir de la simra quand tu fais venir Aaron à Elohim. Il nous faut les deux. Je me souviendrai toujours. D'un jour, j'ai été faire un simra Torah à Tel Tzion, côté de Kohav Yaakov. Je ne dirai pas exactement où, mais là-bas, j'ai senti qu'il y avait beaucoup de Ahavat Hashem, mais que cette Ahavat Hashem était en train, était pas en train, était devenue Bizayon la Hashem. Les gens là-bas étaient vraiment, vraiment mamash besimchat Torah, mamash. Et donc, comme c'est le cas dans ce milieu-là, et kol ha-mevin yavin, ils ont fait kiddush et ils buvaient beaucoup. Entre chaque akafa et akafa, ça buvait et ça buvait et ça buvait. Et à un moment donné, le rav de la synagogue, parce qu'il voulait faire tellement les chaim, parce qu'il était tellement sa mère, a vomi en plein milieu de la synagogue. Heureusement que ce n'est pas lui qui portait le Sefer Torah à ce moment-là. Mais le pire problème, c'est que ce n'était pas le seul. Il y a eu au moins 4 personnes qui ont vomi, dont un qui s'est évanoui. Rabotai, il faut haïr un. Ah, tu ne peux pas non plus dire « Bon, alors, très bien, alors c'est quoi Simchat Torah ?» C'est « On va laisser le Sefer Torah, et je ne parle pas de Corona, hein. » C'est « On va dire Zerikoud, oulalalalalala. » Non, Tzachlir Kod, put sa mère. Aval, Imira. Imira. Et là, c'est ce que David va apprendre ici. Il y avait une Simchat à Torah, Simchat Hashem, énorme, mais il n'y avait pas d'Ira. Vayichar donc, le David, à la chair parat Hashem, Peretz Beouza, Vayichar la makom ahou Peretz Ouza, Adayom Azé, Vayira David et Hashem. Vayira David et Hashem. וירא דוד את השם, עכשיו הוא התמלא יראה ביום ההוא, ויאמר, איך יבוא אליי ארון השם? ולא אבא דוד להסיר אליו את ארון השם על עיר דוד. ויתהו דוד בית עובד אדום, הגיתי. Et donc finalement, il décide de le laisser là-bas. On va l'emmener à בית עובד הגיתי, je ne suis pas prêt, dit David. וישב ארון השם בית עובד אדום הגיתי, 3 חודשים, ויברך השם את עובד אדום הגיתי. ואת כל ביתו. ויגד למלך דוד לאמור, ברך השם את בית עובד. אה, דוק סביר כסיבון. סביר כמנוע עונה עתן לניבו דה יראה כונה ובזוין. אלור יאללה. וילך דוד ויעל את ארון האלוהים מבית עובד אדום עיר דוד בשמחה. פורקווה? פסקו יאו ליראה כלה פרסדה. ויהי כי צעדו נושא ארון השם 6 צעדים ויזבח שור ומרים ודוד מקרקר בכל עוז לפני השם ודוד חגור אפוד בד. Je ne sais pas si vous imaginez l'ambiance. Je ne sais pas si vous imaginez l'ambiance. Encore une fois, David, Melech Israël, Roked, Im Efod Bad. Hop là, je vous montre. Regardez, alors ça, ce n'est pas une image archéologique, hein, mais voilà le dessin qu'on peut voir au Machon Amikdash. Je vous montre bien. Voilà. On voit Aaron HaElohim qui est en train d'arriver et qui va arriver en haut de l'image, dans la tente blanche qu'on voit là-bas. Et on voit David en bas en train de lire code. Est-ce que vous pouvez voir? Alors, vous voyez une main juste là à côté du Aaron. C'est la main. C'est la main de Michal Bat Shaul, la femme de David. Tu dis, mais quoi? Regardez, David Roked, il me faut bad. Nous, qu'est-ce qui se passe? Iné, je reprends le verset. Ve David, ve chol bet Israël, ma'alim et Aaron Hashem, bitroua, ou bekol shofar, ve aya Aaron Hashem, ba ir David, ou Michal Bat Shaul, nishkefa bead achalon, va tere et amelech David, mefazez ou mekarker lifne Hashem, va tivez lo beliba. Il m'a dit, masé. David, faut s'imaginer, il est avec un ephod bad, il est avec une jupette. Et il danse devant Aaron, et il est comme un fou. Aval apam, il est malé yirat Hashem, ve'ahavat Hashem. Ve Michal, il omer et zelo matim. Ata Melech Israël. C'est parce que Michal, elle est bat Shaoul, et qu'on avait déjà expliqué la semaine dernière que la dimension de Shaoul, c'est la tzniout. Pour Shaoul, il y a une tzniout à avoir devant un Kadosh Baruch Hu. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, regardez ce que Michal va répondre.
ויביאו את אהרון השם ויציגו אותו במקומו בתוך האוהל אשר נתן לו דוד ויעל דוד עולות לפני השם ושלמים ויחל דוד מעלות עולה ושלמים ויברך את העם בשם השם צבאות ויחלק לכל העם לכל המון ישראל למאיש ועד אישה לאיש חלת לחם אחת ואשפר אחד אחד זה נסחה והשישה אחד וילך כל העם איש לביתו וישוב דוד לברך את ביתו ותצא מיכל בת שאול לקחת דוד, ותאמר, מה נכבד היום מלך ישראל, אשר נגלה היום לעיני המאות עבדיו, כהגלות נגלות אחר הריקים.
Tu t'es comporté comme un serviteur, mais qu'est-ce que ça veut dire de s'habiller comme ça et de danser comme ça?
ויאמר דוד אל מיכל לפני השם אשר בחר בי מאביך, ומכל ביתו לצוות אותי נגיד על עם השם, על ישראל, ושיחקתי לפני השם, ונקל אותי עוד מזאת, והייתי שפל בעיניי, ועם המאות אשר אמרתי מהם, אכבדה.
J'ai aucune raison d'avoir honte de danser comme פשוט העם לפני השם. וואו. אני, הקדוש ברוך הוא משוויזי. אגב, היא משוויזי, פלוטו טון פר. Je suis devant un Kadosh Baruch Hu comme Kulam. Aval ze lo nachon, ata melech. Tu es le roi, tu n'es pas comme le dernier des serviteurs. Aval ani eved Hashem. C'est bidyuk ha'inyan.
Ce que dit Michal, elle a raison. Tu t'es comporté comme le dernier des serviteurs. Et David, il dit, nachon. J'ai été exactement, j'ai eu l'honneur de me comporter comme un serviteur. De qui? D'Akadosh Baruch Hu. On retrouvera ces dimensions-là dans les Gdolé Israël, dans toutes les générations. Le Rav Kook, qui était le grand rabbin d'Eretz Israël, à Kohen Agadol de Bedoro, quand il signait ses lettres, il disait « Eved le'am Kadosh ». Je suis un serviteur de mon peuple, serviteur d'Akadosh Baruch Hu. Quel est le juste milieu entre la Yira et la Simcha? Le juste milieu entre la Yira et la Simcha, c'est Atiferet. Yira, Zemidat Agvura. Simcha Zemidat Chesed. Le juste milieu Zemidat Tiferet. Tiferet, c'est quand je me lâche complètement tout en étant complètement retenu. Zemidat Tiferet. C'est quelqu'un qui prend son fils sur ses épaules pour danser, mais qui n'oublie pas de le tenir quand même. Pour pas qu'il tombe. David termine à Alat Aaron Birushalayim en disant « Atzodeket, j'ai été un Eved Pashut. Eze Eved, Eved Hashem. » Zéou, une fois qu'on en est là, tout va bien. Et donc David peut terminer en disant « Vayi ki ashav ha-meler bebeito va-Hashem en niach lo misaviv mikol oivav. » C'est bon, David, Melech Israël, chay ve-kayam. Donc qu'est-ce qu'il y a à faire? « Yomer ha-melech אל נתן הנביא, ראה נא אנוכי יושב בבית הרזים, ואהרון האלוהים יושב בתוך העירייה. כמו אספוזיק כמו אשדום דוזין מזון ביה על הקלאס אתו, ואהרון האלוהים דוזין טונט. ואומר נתן אל המלך, כל אשר בלבביך לך עשה, כי השם עמך. אהוי, תמתון, זה נידי דשני. סייה, איפה קונסטרויר לבית המקדש? ואי בלילה ההוא, ואי דבר השם אל נתן למור, לך ואמרת אל עבדי, אל דוד. זהו! דוד est devenu עבד השם. Ce titre-là, il apparaît pas beaucoup. משה, עבד השם, דוד, עבדי. תבוא דוד, לך ואמרת אל עבדי, אל דוד, כה אמר השם, אתה תבנה לי בית לשבתי, כי לא ישבתי בבית למיום העלותי את בני ישראל ממצרים ועד היום הזה. ואהיה מתעלר באוהל ומשכן ובמשכן. בכל אשר התהלכתי בכל בני ישראל הדבר דיברתי אליך צירה שבטי ישראל, אשר ציוויתי לראות את עמי, את ישראל, למור, למה לא בניתם לי בית ארזים? ואתה, כה תאמר להבדיל לדוד, כה אמר השם צבאות, אני לקחתיך מן הנווה, מאחר רצון, להיות נגיד על עמי על ישראל, ויהיה אימך בכל אשר הלכת, ואחריתה את כל אויביך מפניך, ועשיתי לך שם גדול כשם הגדולים אשר בארץ, ושמתי מקום לעמי לישראל ונתתיו שכן תחתיו, ולא ירגז עוד, ולא יוסיפו בני אבלה לענותו. כאשר בראשונה, נודי דוד, נודי הקדוש ברוך הוא, די הנתן, Non, c'est pas ce qui s'est passé la première fois. La première fois, ils auraient dû faire attention avant que les bacars ils s'emballent. Ils auraient dû sécuriser la chose avant de commencer à laisser les animaux partir et s'exciter. Donc non, c'était l'inverse. Là-bas, il n'y avait que de la simcha. Justement, quand ils étaient en train de danser, on ne t'a pas dit du tout qu'ils ont pris des précautions avant. Mais qui te sourd ? Akadosh Baruch Hu dit à Nathan, dit à David, que ça y est, je l'ai mis en place, je le garde, je l'aide. À Koltov, mais quoi? Ou le mina yom asher tziviti shoftim al ami al Israël, van chino van nichot isra lecha mikol eivera veigid lecha Hashem ki bayit yaseh lecha Hashem ki yimleu yemecha veshachavta et avotecha vakimoti et zaracha acharecha asher yetzem imecha vachinoti em mamlachto. Je te garderai et tu auras une shoshelet, pas comme Shaul. Toi, tu vas mettre en place une dynastie. Donc, si tu veux, Dieu il dit à Nathan de dire à David, ata behemet amelech sheli. C'est vraiment toi que je veux. Où yivne bait lishmi, vechonanti et kise mamlachto adolam. Ani elo leav, vehu yeli leben. Asher beavoto veochar tiv, bishevet anashim, ubengie bene adam. Vechazdi lo yasur mimenu ke asher asiroti meim shaul, asher asiroti melefanecha. Veneeman betecha ubemamlachtecha adolam, lefanecha kisacha yenachon adolam. ככל הדברים האלה, וככל החיזיון הזה, כן דיבר נתן אל דוד. הקדוש ברוך הוא dit, c'est pas toi qui va construire ma maison. Pourquoi? Bien, on le sait, à cause de toute la présentation que הקדוש ברוך הוא a fait à David, à savoir, tu as fait mes guerres. C'est très bien, je ne t'en veux pas du tout, c'est génial. אבל בית המקדש הוא בית שלום. Et donc, celui qui a fait la guerre ne peut pas être celui qui va construire le בית המקדש. Mais ne t'inquiète pas, le Beth Amikdash, c'est la baïte de la maison de David. Et donc, ce n'est pas n'importe qui va le construire, mais c'est ton fils qui te succédera après toi. C'est la première fois dans l'identité d'Israël qu'on a un fils qui va succéder à son père pour diriger Israël. Ce n'était pas le cas avec Moshe, ce n'était pas le cas avec Yoshua, ce n'était pas le cas avec Élie, ce n'était pas le cas avec Shmuel, ce n'était pas le cas avec Shaoul. Iné, Arshav, Arshav, enfin, on peut établir la royauté d'Israël qui va succéder le père, le fils, et qui va enfin pouvoir construire la maison d'Akadosh Baruch Hu. Ce dernier chapitre qu'on vient de lire nous montre l'idéal qui est arrivé à Jérusalem. David est au top de sa carrière. David est enfin devenu Eved Hashem. Comment est-ce que ça va continuer? Eh bien, ça continuera la semaine prochaine, avec justement la naissance de son successeur. Si pour David de Batsheva, mais ça, ce sera pour la semaine prochaine. Shabbat shalom, les koulam.